Alors, on va reprendre où on a laissé, avant la Pâque, avant le temps de Pâque, et on a parlé de la sanctification pendant longtemps, n'est-ce pas? Pendant plusieurs messages, on a fait le tour de la sanctification. Et ça, ce sont toutes les choses qui ont été accomplies à la croix. Et on est rendu à l'étape finale. Qu'est-ce que vous pensez qui manque? Là-bas, les jeunes. Ça serait quoi l'étape finale? On a passé à travers tout ça, hein? Tout ce qui s'est produit à la croix. Hey! Hein? C'est supposé avancer. Bon. Ça ne change pas là? Bon. Voilà. OK, on peut le laisser là. Alors, tout ce qui était écrit là, ça a été accompli par Jésus il y a 2000 ans à la croix, et ça nous est appliqué présentement. C'est des bénéfices qu'on peut avoir parce que Jésus est mort sur la croix. On s'en est souvenu à Pâques, on s'en est souvenu à Dimanche des Rameaux. Et il y a un résumé, Paul dans Romains nous fait un résumé de ce qui s'est produit, il dit: nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas de voir. Toute chose, mon frère, ma sœur, coopère ou collabore ou contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? À être semblable à l'image de son Fils. Wow! Hein? Afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il les a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a glorifiés. C'est déjà fait, n'est-ce pas? C'est tellement sûr, tellement certain, qu'il en parle comme si c'était une chose qui était déjà accomplie, qui était déjà faite. Alors, dans un sens, nous sommes déjà glorifiés et tout concourt au bien. On pourrait dire, on pourrait avoir notre définition du bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est mon bien, mon bonheur? Qu'est-ce qui ferait mon bonheur? Mais il faut que ça concorde avec ce que Dieu nous promet. Et ce que Dieu nous promet dans ce texte-là, c'est quoi notre bien? Quoi qui va nous arriver de meilleur, on va ressembler à l'image de Jésus. Ça, c'est le bien qui nous est promis et qu'on va finalement participer à sa gloire. C'est ça qui est promis dans qui nous est assuré dans ce texte-là. Ce n'est pas ma conception à moi du bonheur, ce n'est pas nécessairement les bénédictions matérielles. Est-ce que tous les chrétiens sont riches et en santé? C'est ça qui est promis? Non, c'est pas ça qui est promis. Est-ce qu'on va être exempt des épreuves? On va être exempt des tentations, des malheurs, des tempêtes? C'est ça notre bien qui nous est promis? Non. Ce qui nous est garanti, c'est qu'on va ressembler à l'image de Jésus et qu'on va participer à sa gloire. C'est ça qui est notre bien ultime, le bien qu'on vise. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ont souffert et qui souffrent actuellement dans le monde à cause de leur foi? Est-ce parce qu'ils sont maudits? Non, ils sont bénis. Ils sont bénis. Idi Amin Dada, vous vous souvenez? En Ouganda. Lui, il avait ridiculisé les chrétiens, comme on le fait dans notre société aujourd'hui. Il avait pris une parole de l'Évangile, la parole de Jésus, qui dit « Mangez mon corps et buvez mon sang. » Puis lui, ce qu'il faisait, là, quand il attrapait des chrétiens, ben, il les traitait de cannibales, et puis il leur coupait des morceaux, des membres, et puis il faisait manger ça à leurs enfants. Ça, c'est fin du 20e siècle, là. Ça fait pas longtemps. Et il y en a combien aujourd'hui, hein, qui sont des victimes d'atrocités, des martyrs, qui paient de leur vie juste à dire qu'ils sont chrétiens. Ils sont dans un combat terrible. Est-ce que c'est plus facile pour nous d'être chrétiens? Non. Je ne crois pas ça. C'est beaucoup plus subtil. Et la facilité devient notre ennemi. Le confort, la facilité devient notre ennemi. Il y a combien qui tombent entre les mains de l'ennemi à cause de ça? Je dirais plus qu'il y en a qui tombent aux mains de ceux qui massacrent les chrétiens. Alors, mes frères, mes sœurs, on est dans une vraie guerre, dans un vrai combat. Et on a besoin vraiment de s'armer dans ce combat-là. Le Seigneur, on l'a vu la semaine dernière, que notre foi avait besoin d'être éprouvée, hein? Il dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, etc. » Et il dit « Afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Notre foi a besoin d'être éprouvée. Notre foi, elle va passer à travers le feu, elle va passer à travers l'épreuve, elle va passer à travers les tentations, elle va passer à travers les temps durs, puis ce qui va sortir de là, ça va être une foi solide, une foi qui a été éprouvée, qui a passé à travers l'épreuve. Alors, on ne s'en sortira pas. Vous êtes ici, c'est parce que votre foi a été éprouvée. Hein? Et vous avez passé à travers toutes ces expériences-là dans votre vie. Et vous tenez encore au Seigneur. Alors, l'épreuve, ça brûle le mauvais, le méchant. Et ça révèle le fond du cœur. Hein? Quand il y a une épreuve, là, c'est Dieu qui pèse sur l'éponge, puis le méchant sort. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le remplir de la foi. Hein? Seigneur, je te fais confiance malgré tout. Hein, la semaine dernière, on a vu la petite vidéo de cette petite ballerine-là, qui est fibrose kystique, paralysie cérébrale, elle bouge à peine ses bras. Et gardez-y la face au milieu de l'épreuve. Ça, pour moi, c'est une image qui m'a gardé toute la semaine. Si elle, dans sa situation, elle peut tirer le maximum du moindre petit geste qu'elle peut faire, hein? Puis en éprouver quel courage, quelle force que cette petite fille-là dégage. Mais ça, c'est la force d'un chrétien. C'est l'image d'un chrétien qui vit des épreuves en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis en ce moment, mais la foi, ça ressemble à ça, au milieu de l'épreuve. Il les a glorifiés. Il les a glorifiés. Il t'a glorifié. Déjà, c'est accompli. C'est pas à la perfection. Et encore, avant qu'on soit dans la gloire du Seigneur parfaitement, totalement, il y a un petit moment à passer, hein? Avant qu'on soit devant le Seigneur. Mais ça nous est appliqué. Il y a quelque chose de la gloire de Dieu qui est déjà présent en nous actuellement. C'est comme, j'ai trouvé une belle photo des rayons de soleil. Hein? Le soleil ne brille pas dans toute sa splendeur parce qu'il y a plein de nuages peut-être dans nos vies. Mais il y a comme des rayons de soleil qui apparaissent, comme des rayons de la gloire de Dieu qu'on peut voir déjà. Des reflets de l'image de Jésus-Christ dont on parlait tantôt, qui sortent à travers nous, qui rayonnent à travers nous. Alors peut-être que j'exagère ce matin, je fabule. Est-ce qu'on ressemble autant à Jésus-Christ? Est-ce que vous trouvez que je ressemble à Jésus? Est-ce que je trouve que vous ressemblez à Jésus? Est-ce qu'on peut voir Jésus-Christ en moi? On va regarder ça un peu plus proche. Paul, dans Corinthiens, fait une comparaison fantastique. Fantastique. Ah, il dit... Quelqu'un veut lire? C'est une comparaison fantastique. C'est quoi la comparaison?
Entre une vie chrétienne puis une lettre.
Ouais. Mais c'est pas entre la vie chrétienne et la lettre. Il y a une comparaison entre la lettre et... Sur quoi c'est écrit?
Le cœur.
Ouais. Il y en a une, c'est le cœur, puis l'autre... Il tape la loi. Alors, il est en train de comparer la loi qui a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï, qui a été écrite, on s'en souvient, avec le doigt de Dieu. Les 10 commandements ont été écrits avec le doigt de Dieu sur des tables de pierre dans l'Ancien Testament. Et là, il est en train de dire que le même doigt de Dieu, par l'Esprit Saint, est en train d'écrire où? Dans nos cœurs. Dans nos cœurs. J'en ai des frissons. Hein? Le doigt de Dieu qui écrit les 10 commandements écrit l'Évangile dans nos cœurs, l'Évangile que Paul prêche. L'Esprit de Dieu prend ces paroles-là et est en train de les écrire dans les cœurs, hein? Suite au ministère de Paul. C'est lui qui a annoncé l'Évangile et les vies ont été transformées. Paul a annoncé l'Évangile aux Corinthiens. L'Esprit de Dieu a écrit ces paroles-là dans les cœurs des Corinthiens et les vies ont été transformées. Puis Paul dit ça, c'est ma lettre de recommandation. C'est la preuve que mon évangile, que l'évangile que je prêche, il vient de Dieu. Alors, si je me mets à la place de Paul, pour un instant, il est en train de dire que par mon ministère, ce que je suis en train de faire ce matin, ici, Jésus est en train, par son Saint-Esprit, de graver sa parole dans vos cœurs. Et cette parole-là a le pouvoir de transformer vos vies. Si je suis ici ce matin, après presque 40 ans de ministère, si je suis ici ce matin, c'est parce que je crois ça. Je crois ça. Si je ne croyais pas à la puissance de l'Évangile pour transformer les cœurs, ça serait impossible pour moi d'être pasteur. Et je pense que c'est ça que Paul est en train de dire. Voir des vies transformées, c'est la preuve que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. J'ai vu dans ma vie, et je veux voir encore, des... pécheurs devenir des saints. J'ai vu des âmes perdues qui ont été sauvées. J'ai vu des brebis errantes qui ont été ramenées. J'ai vu des enfants prodigues revenir à la maison. J'ai vu des cœurs brisés, des cœurs blessés, des cœurs malades. Et des malades guéris. J'ai vu des captifs, des dépendants libérés. J'ai vu des personnes éprouvées qui en sont sorties vainqueurs de l'épreuve. J'ai vu des malheureux qui sont devenus des bienheureux, des personnes bénies. Et je veux en voir encore. Hein? En 1967, quand j'ai accepté le Seigneur, il y avait une parole du Seigneur : Vive le Québec! Libre. Vive le Québec libre. J'étais convaincu de ça. Par Jésus-Christ. Il avait trouvé une autre solution que celle qu'on nous proposait. Vive le Québec libre en Jésus-Christ. Je veux y croire encore. Et je veux le voir encore. Vive le Québec libre, même si c'est un par un. Un par un. Pas fini la comparaison. Alors qu'on compare notre cœur avec les tables de loi et le doigt de Dieu qui vient écrire sa parole dans nos cœurs, il est en train de faire ça, là. Il est en train de prendre la parole qui est écrite. Le Saint-Esprit prend la parole qui est écrite puis il est en train de l'écrire dans nos cœurs. Et c'est pas fini, il fait une autre comparaison. Il continue un peu plus loin dans 2 Corinthiens 3. Quelqu'un veut lire? Et ça continue.
En effet, si le ministère de la condamnation a été glorifié, combien plus glorieux est le ministère de la justice qui nous déclare juste. On peut même dire que cette gloire se passe par tout son état quand on compare à la gloire du présent qui lui est bien supérieure. Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement?
Qu'est-ce que Paul est en train de dire là? La révélation que Moïse a reçue sur le mont Sinaï, là, à comparer à celle que nous avons de Dieu en Jésus-Christ présentement, ça ne se compare pas. Je répète. Hein? Il n'y a personne dans l'Ancien Testament, je pense, qui était plus proche de Dieu que Moïse. Il est allé sur le mont Sinaï, il est entré dans la présence de Dieu, et il est ressorti de là comment? On ne pouvait pas fixer le regard sur lui parce que ça brillait trop comme le soleil. On ne peut pas regarder le soleil, hein? Mais on ne pouvait pas regarder Moïse parce que c'était trop brillant, c'était trop lumineux. Mais Paul est en train de dire, là, que ça, c'est rien à côté du privilège que nous avons en Jésus. La révélation que Moïse a eue sur le mont Sinaï à comparer avec l'Évangile de Jésus-Christ, c'est comme une lumière, une chandelle devant le soleil. Ça disparaît dans la gloire. On a tout un privilège. On dit les anges désirent plonger leur regard dans l'Évangile. Et puis tous ceux qui, dans le passé, les rois, les prophètes, ont voulu voir. Ça, ils ne l'ont pas vu, mais vous autres, vous avez le privilège. On a le privilège immense de recevoir l'Évangile, d'avoir la révélation de Dieu, de qui est Dieu à travers Jésus-Christ. Et ça, c'est bien plus glorieux que le visage de Paul lorsqu'il est descendu de la montagne. Parce que ça a disparu, hein? Ça n'a pas duré. Tandis que notre gloire, elle est permanente et elle va durer pour l'éternité. Est-ce qu'on est conscient? Est-ce que jusqu'à quel point je réalise, j'expérimente la gloire de Dieu dans ma vie? Ce privilège qu'on a là, jusqu'à quel point on l'expérimente? Hein? La connaissance de Jésus-Christ. Un autre texte fantastique. Quelqu'un veut lire?
Brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance.
Quand est-ce que Dieu a dit « la lumière brillera du sein des ténèbres » à la création? Que la lumière soit. Et on connaît les conséquences, n'est-ce pas? Mais le même Dieu qui a dit que la lumière soit le jour de la création, qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière brille dans ton cœur, mon Michel. Ou mets ton nom. Que la lumière divine qui a créé le monde touche ton cœur. Un miracle extraordinaire que je peux maintenant voir briller la splendeur de l'Évangile. J'étais dans les ténèbres, j'étais dans la noirceur, hein? Comme au verset précédent, aveuglé. Et tout à coup, le Seigneur a mis son doigt et il a dit, hein, que la lumière soit dans le cœur de Michel. Et la vie de Michel a viré de bord complètement, a été transformée. Relation intime avec Dieu. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, Moïse met un voile pour se présenter devant le peuple parce que c'était trop lumineux. Il dit, nous autres, on enlève le voile. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Le mot grec, c'est métamorphéo, métamorphosé, en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je relis ça, hein? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, il n'y a rien qui cache, hein, qui voile nos yeux, il n'y a rien qui bouche nos oreilles pour qu'on entende la parole de Dieu prononcée ce matin. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, métamorphosés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. On voit que c'est en train d'être en train d'être transformé, comme la métamorphose, hein? C'est nous, ça. Hein? Si on voulait faire un portrait d'un chrétien, là, on est enveloppé par la chair à gauche, là. On vient au Seigneur, puis on ne sait pas c'est quoi notre nouvelle identité, puis on lutte avec la chair. Mais au fur et à mesure où on meurt à soi-même, on se sépare de cette chair stupide et que notre identité se développe en Jésus-Christ, notre nouvelle identité se développe en Jésus-Christ, bien, on devient un papillon. Et ça, c'est qui fait ça? Par nos efforts, par nos forces? Non, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait là. Hein, il dit qu'on est transformé de gloire en gloire. Non, ça parle d'un processus, ça parle d'une progression. On s'en va de plus en plus transformé à l'image de Jésus-Christ et dans la gloire, de gloire en gloire, par l'Esprit, c'est lui qui accomplit ça dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Tu es dans un processus actuellement d'être transformé à l'image de Jésus. Pas de voir? Je veux un voir. Un voir, ça vaut un voir. Ouais. Alors, si je m'expose à la parole, comme ce matin, on est exposé à la parole de Dieu, et qu'il n'y a pas un voile sur notre cœur qui nous empêche de voir briller la puissance de l'Évangile, s'il n'y a pas de bouchon dans nos oreilles pour nous empêcher d'entendre l'Évangile, il va y avoir une métamorphose. Il va y avoir une métamorphose. Lorsque j'absorbe la parole de Dieu qui pénètre dans mon cœur, puis que le Saint-Esprit prend cette parole-là, puis il la plante dans notre cœur, on sort d'ici transformé à la gloire de Dieu. Petit à petit, étape par étape. Amen. Alors, je pose la question ce matin, je vous pose la question. Comment la gloire de Dieu se manifeste à travers et au milieu de nous? quelqu'un a vu la gloire de Dieu dans sa vie. Pardon?
Notre conduite.
Ouais. Ouais. Un exemple précis. Quelque chose qui est arrivé.
Ouais.
Quelque chose dans mon comportement cette semaine qui a fait que la gloire de Dieu a été manifestée. Ça peut être très simple, hein?
Ça peut être quelqu'un d'autre.
Que tu vois. Oh, oui, quelqu'un d'autre. Mais comment en général? Mais si c'est personnel, c'est encore mieux. Comment? On va sortir tantôt, là. Transformer. Hein? Et on reflète la gloire de Dieu. Les gens nous voient comme dans un miroir. Ils voient la gloire de Dieu comme dans un miroir quand ils nous regardent. Alors, on va se promener, on va aller dans nos familles, on va aller au travail, on va aller dans la rue avec les voisins. Comment? Oui. Non, je te donne 10 sur 10. C'est exactement ça. Oui. Ouais. Et tout ce que tu as, tout ton comportement, même si la parole n'était pas là, même s'il n'y avait pas une évangélisation ouverte, tu as semé quelque chose qui a fait que les gens t'écoutent maintenant. Alors, c'est pas perdu. Oui. Mais tu as été le reflet de la gloire de Dieu. Juste un sourire dans un endroit où il n'y en a pas, on ressemble à Jésus. Hein? Alors, la joie qu'on communique, la paix qu'on communique, l'espoir qu'on communique. D'autres occasions comme ça où on a vu la gloire de Dieu, oui.
Thank you.
Ouais. Mais je pense que c'est la foi d'une personne dans l'épreuve, ça part de la gloire de Dieu. Hein? La petite fille, je reviens toujours à cette image-là, mais comment je réponds à l'épreuve? C'est sûr que sur le coup, peut-être, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'inquiétude, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Si je transforme cette épreuve-là par la foi, en espérance, en confiance, ça brille au milieu de la noirceur. Hein? Alors, on vit des moments difficiles, c'est le temps que notre foi brille. Plus il fait noir, plus la petite flamme elle va éclairer. Liette. Quand Dieu répond à nos prières, son nom est glorifié. Ouais. 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 Et quand tu vois le résultat, wow! Hein? C'est bon. Francis, t'avais-tu levé ta main? Il me semble que j'avais vu, non? OK.
Mm. Ouais.
quand un esprit de jugement est mis de côté, puis on a de la compassion pour la même personne qui, normalement, lui en voudrait ou on la mépriserait parce que, à cause de son comportement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein? Quand je pardonne, j'en veux à quelqu'un là, pour l'étriper, puis je lui pardonne, avec Dieu est glorifié. Gloire à Dieu, il s'est passé quelque chose. Hein? Il y a plein d'occasions. Lise a reçu un texto tantôt de Julie, notre fille. Elle a une amie, elle a deux enfants. Le mari, ils se sont séparés parce que le mari est alcoolique, il prend de la drogue. Il a suivi je ne sais pas combien de cures de désintoxication. Puis il a dit, « Papa, tu peux-tu le rencontrer? » Alors, elle se tourne vers Dieu. Hein? Et par la grâce de Dieu, peut-être que Dieu va faire un miracle. Parce que ça prend un miracle dans un cas comme ça. Un cœur transformé. Imaginez les conséquences de ça. Ce gars-là qui... hein? Des gens perdus qui acceptent le Seigneur puis qui ont une vie transformée. La gloire de Dieu. Est-ce qu'on y croit? Moi, je veux y croire. Oui?
J'ai une petite histoire qui est arrivée cette semaine, j'ai eu le privilège à partager les 12 œufs de Pâques avec 150 enfants dans ma colle primaire, dans mes petites groupes, dans les classes d'éthique et de culture religieuse. Les 2 œufs, j'ai déjà fait ça ici. Il y a 2 œufs avec 12 œufs avec une petite image dans chaque œuf qui partage de Pâques. Et dans une de ces groupes, il y a une petite personne qui s'appelle Jacob. Et Jacob est tout le temps chez les directrices parce que son enseignant est tanné avec Jacob. Il a beaucoup de problèmes de comportement. Et Julie après me dit, je savais que je vais avoir Jacob dans mon groupe. Qu'est-ce qui va arriver avec Jacob? Parce que je sais qu'on a des problèmes, des gros problèmes. Et Jacob est arrivé avec une groupe de peut-être 20 enfants et il s'assoit en face de moi, j'ai partagé l'histoire, il ne bouge pas du tout, il ne lit pas un mot, il était calme et attentif complètement pendant tout le temps. Et il est engagé et il savait un petit peu de l'histoire et il me dit, ah, ça c'est la meilleure histoire que j'ai jamais entendue. Il ne peut pas s'asseoir. Et c'est l'Évangile qui apprend l'attention. Mm. Et je pense que c'est seulement l'Évangile qui peut changer le cœur d'une enfant comme ça.
Oui. Alors, ayons pas peur de le prêcher. En parole et en acte, si on doit gagner l'attention ou la crédibilité aux yeux des personnes, mais... Ayons pas peur de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Marie-André, tu nous as raconté ta petite fille qui...
pour l'école du dimanche?
Ouais.
Ouais,
ça va avec Cheryl?
Oui, OK. Ben, la deuxième, je pense, c'est Claire qui a fait l'école du dimanche. Puis après ça, on est allé manger chez Geneviève et Sébastien. Puis elle a dit à son papa, « Papa, sais-tu quoi? Il y a un monsieur qui aime pas Jésus. » Mais pas moi! Pas moi! C'est l'histoire de Judas Iscariot, mais elle ne pouvait pas comprendre qu'il y a un qui n'aime pas Jésus. Que, ben, merci, professeur de l'école du dimanche. Je travaille dans le cœur de
l'école. Oui, c'est excellent, ça va avec Cheryl. Alors, on est tous différents, on a des contacts différents, mais on a tous un évangile qui peut transformer les vies. Semons ça, hein? Et on va voir la gloire de Dieu cette semaine qui se manifeste à travers les petits gestes, les petites paroles qu'on peut poser. Mm-hmm. Wow! Oui, c'est bon ça. Ouais. Oui. C'est bon. Alors, Fabiola, c'est la gloire de Dieu. C'était ici. On est bien content. Ouais. On a tout juste arrêté. On pourrait continuer. Hein? On pourrait continuer. On a plein d'histoires. Mais on va terminer dans la louange à la gloire de Dieu. Puis, le choix des chants tantôt, là, moi, je savais de c'était quoi le sujet, mais c'était en plein ça. C'était en plein. Ça arrive souvent, ça, que Christian est inspiré pour le choix des chants.